Frédéric Gobert, bonjour.
Bonjour.
Professeur de français, docteur en sciences du langage et titulaire d'un DEA de lettres modernes. Vous êtes aussi auteur. Nous vous avions reçu, les auditeurs s'en souviennent peut-être, ici même il y a peu pour votre premier ouvrage, intitulé Le système éducatif français à l'ère du ludique. Vous revenez aujourd'hui pour le deuxième, déjà, votre deuxième publication, toujours aux éditions L'Harmattan, Le système éducatif français à l'heure des perversions idéologiques. Vous écrivez vite, on s'en rend compte, d'autant qu'il y a quatre ouvrages qui sont prévus. Ce sont vos élèves, vos collègues, ce système éducatif au sein duquel vous évoluez qui vous inspire?
Ce qui m'a inspiré tout d'abord, c'est le fait de ne pas comprendre ce qui se passe dans le système éducatif et d'avoir besoin de le comprendre.
Eh bien, aujourd'hui, on va s'intéresser donc à ce volume 2, donc le système éducatif français à l'heure des perversions idéologiques. Vous parlez, je cite, des folies qui structurent l'éducation. Fin de citation. Est-ce que vous pouvez, pour nos auditeurs, les développer un petit peu, peut-être pas autant que dans l'ouvrage, mais elles sont nombreuses, ces folies.
Les folies qui structurent le système éducatif, j'emploie le terme folie exprès parce que on se rend compte que on est dans un univers plus global, hein, indépendamment du système éducatif. Plus globalement, on est dans un univers qui est fou. Il y a des livres d'ailleurs qui en parlent et qui pointent le fait que ce que demande aujourd'hui par exemple le management, que ce soit dans les services publics ou dans l'entreprise privée, mène les gens à une sorte de burn-out, un état intérieur qui ne leur permet pas de réussir parce qu'on leur demande de faire quelque chose qu'ils n'arrivent pas à faire, qu'ils ne peuvent pas faire. Donc à l'arrivée, les gens ne peuvent pas être épanouis. Et dans le système éducatif, c'est la même chose. On demande aux enseignants de faire ce qui ne dépend pas d'eux, par exemple. On dit tout le temps, tout le monde l'a entendu, le système français est inégalitaire, donc le système éducatif français doit favoriser l'égalité. Or, la question des inégalités ne relève pas du système éducatif, en fait. Il y a des gens qui l'ont écrit dans les années 20, que ce soit des anarchistes, des sociologues, des pédagogues, enfin toutes sortes de gens l'ont dit. La question des inégalités n'est pas essentiellement, fondamentalement, du ressort du système éducatif. Donc quand on demande aux enseignants de régler la question, et ils ne peuvent qu'échouer. Et après, on va leur dire, vous échouez. Ah, la question des folies, c'est la question pédagogique aussi, on va y revenir. Quelle pédagogie utiliser, mettre en place, et est-ce que c'est adapté aux élèves quand on sait que cette pédagogie, en fait, est complètement en phase avec l'idéologie néolibérale et que le management s'impose même aux élèves?
Alors, on va l'évoquer justement, ce néolibéralisme qui prend beaucoup trop de place dans ce système éducatif. Et vous parlez dans votre ouvrage de la perversion des valeurs et de la culture du pauvre. Alors, cette perversion des valeurs, c'est cette schizophrénie que vous soulevez dans vos folies entre ce que l'on veut faire et ce qui serait possible finalement.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a ce que l'on peut faire et puis il y a ce qu'on demande et qu'on ne peut pas faire. Il y a aussi le fait de demander aux élèves, par exemple, de signer des contrats. Alors ça va de soi aujourd'hui, tout le monde signe des contrats, donc on considère que c'est normal qu'un élève de, je vais dire, 10 ans signe un contrat. On peut se demander si c'est sain pour lui de signer un contrat. Alors certes, ça l'habitue au fait que plus tard, il va signer des contrats. Et là, dans le système éducatif, il signe un contrat de manière assez individualisée. Il y a ses parents qui signent aussi, le chef d'établissement, le professeur principal éventuellement, au meilleur des cas.
Qu'est-ce qu'on a dans ce contrat? Parce que peut-être nos auditeurs ne savent pas.
Alors dans ce contrat, oui, tout à fait. Dans ce contrat, ça va être je m'engage à faire telle chose, à réussir. Je m'engage à faire tel type de travaux, à tel rythme, etc. Donc il s'agit d'un engagement personnel et pas seulement d'un engagement en tant qu'élève, mais personnel. Voilà, c'est la personne de l'élève, de l'enfant à 10 ans, il doit s'engager et ça l'habitue à signer un contrat dans des conditions en fait individualisées qui ne permettent pas à l'enfant de par exemple d'envisager le fait de se syndiquer, de participer à des luttes sociales, mais ça le met dans une situation de fragilité. Et c'est ce qu'on va lui demander plus tard quand il va travailler dans une entreprise où plus il est fragile et plus il va être exploitable.
C'est ça, c'est une éducation à être salarié et à être soumis à
être surtout,
un engagement.
Voilà, et être surtout exploité dans des conditions de moins en moins libres. Contrairement, par exemple, j'en parle aussi dans le livre, à ce que l'on dit au sujet de l'entreprise libérée qui est à la cote en ce moment. On dit que l'entreprise libérée, c'est bien mieux. C'est vrai que l'expression entreprise libérée est assez séduisante. En réalité, l'entreprise libérée, c'est celle qui contraint le plus. mais on nous dit, voilà, regardez, vous n'aurez plus d'évaluation annuelle, vous n'aurez plus de chef au-dessus de vous pour vous casser les pieds. Donc, on se dit, bah, c'est super, je vais être plus libre. Et en réalité, il y a une pression beaucoup plus grande et on est évalué en permanence et avec notamment les objets connectés qui se développent de plus en plus dans les entreprises. Les gens vont être surveillés et évalués à chaque seconde en réalité.
Parce qu'on demande quand même, malgré tout ça, on demande quand même toujours plus de productivité.
Voilà, exactement. Et donc les élèves, par exemple, quand on leur dit il n'y aura peut-être plus de notes, dans l'ensemble, ils se réjouissent, certains, enfin, sauf les élèves qui aiment travailler et qui froncent un peu les sourcils et qui se disent « tiens, c'est bizarre », mais les autres disent « c'est super, on ne sera plus noté, donc ça sera mieux ». Autrement dit, sous-entendu, bon, on aura moins de travail, on sera moins… En réalité, quand il n'y a plus de notes, si le travail est fait correctement par les personnels, l'évaluation, elle est permanente. À chaque instant, ils ne peuvent pas bouger le petit doigt en classe sans qu'on les évalue. Voilà, on va surveiller l'élève et en fonction de sa manière de se comporter en classe, il va être évalué. Et même à la limite...
Il a finalement moins le droit à l'erreur que s'il y avait des notes.
Ouais. Exactement. C'est-à-dire que la note, c'est... Voilà, il y a une note, mais aux autres moments, bon, on ne va pas l'évaluer. Alors que quand on retire la note et qu'on évalue par compétence, si on le fait vraiment à fond, on l'évalue tout le temps, même dans la cour de récréation, dans les couloirs. Il peut être évalué, en principe, en théorie, à chaque instant. C'est du contrôle permanent qui devient insupportable.
Alors, Frédéric Gobert, il y a deux chapitres très intéressants à ce sujet-là dans votre livre, sur l'individualisation, sur la contractualisation. Un livre quand même assez dense. Vous évoquez aussi ce concept de culture du pauvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement ?
Ça, c'est un des drames les plus terribles que l'on est en train de vivre. C'est ce responsable de l'OCDE qui disait, il y a déjà une vingtaine d'années, si mes souvenirs sont bons, moi je le cite dans le livre, et qui disait, voilà, maintenant, le système éducatif public dans l'OCDE en Occident est destiné aux déshérités du système. Voilà, il le dit quasiment textuellement. Donc, si effectivement le système éducatif public est destiné aux déshérités du système, on sent bien que si on est en phase avec ça, en tant que responsable politique, eh bien notre objectif en tant que responsable politique va être de détruire le service public pour envoyer les élèves qui ont envie de travailler ailleurs, dans le privé, et laisser dans le public les élèves en difficulté, en gros, pour schématiser. Et quand on sait que c'est un responsable de l'OCDE au niveau éducation qui dit ça, eh bien on a froid dans le dos. Et quand on sait que l'OCDE aussi dit qu'il faut envoyer 60% d'élèves en bac plus 3, il faut voir une cohérence là-dedans. C'est pas du tout incohérent, il y a un lien. L'objectif n'est pas l'épanouissement de l'élève. L'OCDE n'en a rien à faire de l'épanouissement de l'élève en temps, le bonheur, disons, hein, pour parler d'un mot que le management n'aime pas.
Et concrètement, ça traduit aussi par un manque de mixité, non pas peut-être sociale, mais aussi intellectuelle au sein des classes, puisque les élèves les plus brillants vont être rapatriés vers le privé. Vous dites que cette culture du pauvre, elle peut aussi augmenter l'apparition des troubles dits 10 et de l'autisme. Ça veut dire qu'il y a une déséducation qui se fait au sein de ces classes ?
Ben, au niveau du recrutement, par exemple, du personnel enseignant, qu'est-ce qu'on leur demande ? Lorsque l'on sait que je crois que tout le monde l'a constaté, au niveau, par exemple, de la maîtrise du français, de l'orthographe, de l'expression, il y a une vraie dégradation. On le constate en tant qu'enseignant au collège, par exemple. Donc, les élèves qui arrivent au collège, malgré ces difficultés, vont quand même passer au lycée, et puis ils vont avoir leur bac, et puis certains vont continuer, etc. Donc des personnes se retrouvent à passer des concours d'enseignement en ayant une maîtrise du français qui est ce qu'elle est, mais un certain nombre peuvent avoir des lacunes et se retrouvent à enseigner les méthodes, ce qu'on leur demande au niveau de la formation est certainement à revoir pour que les exigences, et au niveau aussi des fondamentaux, les exigences soient au niveau de ce que l'on pourrait, nous, alors parents, certains enseignants, attendre. Et du coup, ça développe effectivement des difficultés. Alors, on met des étiquettes, du coup, ça rassure tout le monde. Hein. Donc, il y a les 10, il y a les précoces. L'autisme est en lien avec... notamment l'alimentation. Aux États-Unis, c'est dramatique.
C'est un peu un fourre-tout, l'autisme. On y met beaucoup de pathologies.
Exactement, on y met beaucoup de choses. Et quand on sait à quel point l'alimentation a un rôle considérable dans le développement de l'autisme, on peut se demander ce qu'on peut attendre des enseignants. Voilà. Donc c'est peut-être, en fait, au niveau de l'industrie agroalimentaire qu'il faut aussi revoir ça. Mais comme l'industrie agroalimentaire est l'un des lobbies les plus puissants auprès des politiques qui dirigent les pays occidentaux en général, bah, il faut que ça vienne du peuple aussi, qui cherche à changer ses habitudes et notamment ses choix budgétaires.
Alors, le temps passe assez vite dans ce magazine, Frédéric Gobert, mais on a bien compris que c'était un leurre de croire que l'on pouvait mettre tout le monde sur un pied d'égalité, et vous y faites très bien référence dans cet ouvrage. On a compris aussi, vous développez cette idée que le néolibéralisme pervertit l'enseignement. Vous venez d'y faire allusion, un enseignement qui devrait être neutre, objectif, et qui ne l'est pas ou plus. Et la dernière idée que j'aimerais qu'on développe, c'est celle-ci, car on retrouve dans votre ouvrage l'idée d'instrumentalisation, et même, vous allez plus loin, de trahison de ce qu'on appelle les néopédagogies, comme Freinet, par exemple, que vous citez en exemple.
Oui.
Freinet, c'est la libre expression de l'enfant, à la base.
Voilà, la trahison, eh bien, c'est que ces pédagogies de Freinet et compagnie, enfin Freinet c'est un des plus connus, mais ces pédagogies-là qui sont présentées comme favorisant l'épanouissement de l'enfant et que la plupart des pédagogues d'ailleurs, en toute sincérité je crois, essayent de mettre en place dans le système éducatif parce qu'ils pensent que c'est bon pour l'enfant, ce sont des pédagogies qui sont complètement trahies parce que Freinet, tous ces gens qui étaient hostiles à la pédagogie traditionnelle, entre guillemets traditionnelle, il faudrait revenir là-dessus aussi, mais on n'aura pas le temps. Tous ces gens comme Freinet et autres, c'était quoi? C'était des socialistes, c'était des anarchistes, c'était des gens qui s'occupaient des déshérités du système, pour le coup. Et c'était des gens qui disaient, on ne peut pas institutionnaliser ces pédagogies. On ne peut pas, par exemple, les mettre en place dans des villes. Mais ça, on n'en a pas tenu compte. On récupère des outils. Et ensuite, on les met en place au niveau de toute la France en disant, voilà, regardez, ça c'est bien, c'est du Freinet. C'est pas vrai. Freinet, il voulait instaurer une république sociale. Je crois pas que les enseignants, les pédagogues qui promeuvent Freinet aujourd'hui aient l'ambition de renverser le capitalisme. Voilà, donc c'est de la trahison pure et simple, mais pas seulement au niveau de l'idéologie de Freinet et des personnes qui étaient comme lui, socialistes, ou même des prêtres, par exemple, aussi, qui voulaient rompre avec le système capitaliste d'exploitation des humains. Non, les pédagogues aujourd'hui prennent des outils et disent « on va démocratiser ». Ils sont dans l'idéologie pure et la trahison malgré eux.
Alors, on retrouve également dans cet ouvrage un chapitre sur les trafics mondialisés, sur les addictions, sur les tabous aussi. En guise de conclusion, Frédéric Gobert, on sait qu'il n'y a pas de solution miracle, mais on a besoin, on l'a déjà dit à la fin de la précédente interview et de votre premier ouvrage, il y a besoin d'une véritable révolution du système éducatif, il faut tout chambouler, même si vous avez un chapitre aussi sur les réformes qui donnent à réfléchir. Il faut qu'on aille vers un mieux et vers une séparation des pouvoirs, si j'ose dire. C'est quoi la prémisse, les graines d'une solution, ce serait quoi?
Alors, les graines d'une solution, alors pour en dire deux mots très vite, ce serait de mettre en place dans le système éducatif, mais le problème c'est que ceux qui font les réformes sont ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui sont au pouvoir sont favorables à la société néolibérale, donc je pense pas que ça puisse venir d'eux, mais ce serait de la part des parents, des enseignants, de favoriser vraiment une réussite de l'enfant en termes d'épanouissement en tant qu'adulte, beaucoup plus qu'en tant qu'enfant, contrairement à ce qu'on entend tout le temps, l'objectif.
Une valorisation de l'individu?
Alors, non pas l'individu, justement, parce qu'il y a l'individualisme, n'est pas quelque chose de très positif pour la société telle qu'on veut nous l'imposer. Dans l'objectif, ce serait de faire en sorte que les parents se rendent compte que l'objectif, ce n'est pas d'épanouir l'enfant, c'est de l'épanouir en tant que futur adulte, c'est-à-dire d'avoir comme objectif de le construire comme adulte. Et donc du coup, ce n'est pas le même épanouissement qu'on vise, c'est pas une finalité ponctuelle, présente, très locale maintenant, mais c'est, voilà, si je veux que mon enfant soit épanoui en tant qu'adulte, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour lui? Et ça ne sera pas forcément la même chose. Et dans le système éducatif, c'est un peu l'objectif, revaloriser les filières professionnelles, arrêter toujours de dire aux parents que si on envoie leur enfant en seconde pro, voilà, eh bien c'est que c'est un raté, parce que c'est ce qu'on sous-entend, et même des responsables importants au niveau éducatif le disent.
Alors, on vous recevra avec plaisir pour le troisième et le quatrième ouvrage, pour continuer ces discussions qui sont passionnantes. Si je vous suis bien sur ces germes, ces graines de solutions, il faut repenser et redonner son sens premier au mot tuteur, finalement, pour guider l'enfant vers cette vie d'adulte et dans quelque chose qui lui correspond, pour aller vers sa lumière.
En fait. Voilà, et en tant que parent, notamment. Et pour finir, je voudrais dire aussi qu'en 2017, là, entre janvier et mars, trois romans jeunesse vont paraître, là, que je présenterai aussi à la librairie La Fontaine notamment, ou d'ailleurs à la librairie La Fontaine
où vous êtes samedi,
où je suis samedi, voilà, de 9h30 à 12h30 pour une dédicace samedi 17 décembre.
Voilà, à Priva pour venir vous rencontrer. Merci Frédéric
Gobert, merci à vous
d'avoir été avec nous, et à la prochaine fois pour le prochain ouvrage.
Merci.